Bonsoir, vous écoutez bien Radio Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios. Le Canu Info, ben le premier de l'année, alors faut-il présenter des vœux à nos auditeurs? Oui, des vœux pour que la révolution survienne en 2014 grâce à l'action de ses militants. Canu Info avec Jean-Pierre et Robert, pour le moment en duplex, donc on va, comme à notre habitude, aborder la rubrique internationale, à moins que tu aies un message préliminaire ou même un premier sujet, Robert.
Je vais céder comme toi à la pratique traditionnelle et émettre un vœu. Alors le vœu, ce serait que reprenne la discussion, le débat et sans doute peut-être une conclusion pratique sur ce qu'on a appelé et ce qu'on appelle toujours le revenu universel, c'est-à-dire une garantie de revenus pour tous. Un revenu universel qu'on pourrait effectivement considérer au plan hexagonal, mais au plan européen, mais aussi au plan planétaire. Ça n'est pas une utopie inimaginable, c'est une utopie réaliste, c'est une utopie à portée de main. Et j'avais justement repris dans mes documents un numéro du Monde diplomatique du mois de mai de l'année dernière, mai 2013, un numéro formidable où il y avait 6 pages consacrées à cette question du revenu universel, avec beaucoup d'explications, des explications à la fois techniques, politiques et économiques, et naturellement philosophiques, puisque c'est toute une philosophie du rapport au travail qui est mis en question dans ce débat. Et j'avais remarqué aussi, parmi les textes, mais ça on le sait depuis longtemps, parmi les textes qui alimentent cette discussion sur le revenu universel, eh bien il y a tout l'apport d'André Gorce. Alors André Gorce, dès 1990, il évoquait cette question du passage de l'idéologie du travail à l'idéologie d'existence, qui mettait donc en avant cette idée que le revenu universel pouvait être une donnée pas si lointaine que cela. Et il y a d'ailleurs sur un site que l'on peut trouver facilement, le débat se poursuit un peu partout, beaucoup de gens s'y sont attelés et pas des farfelus. C'est une question qui est évidente, parce qu'aujourd'hui, par exemple, rien que dans des pays comme les pays européens, 30% à peu près du revenu des citoyens est assuré par du revenu social. Bon, c'est toute une série de choses. Et 40%, ce sont des revenus nés du travail. Donc déjà, le basculement est déjà bien amorcé. Mais il n'est pas simplement le fait des pays développés ou des pays qui connaissent le chômage. Et la réponse par le plein emploi et le productivisme, naturellement, va à l'encontre de ce qui pourrait être demain cette grande espérance de l'utopie réaliste, c'est-à-dire le revenu universel, une garantie pour tous. Voilà, donc on espère qu'on débattra de tout cela encore en 2014.
Oui, puis peut-être même en 2015. Hein. Alors, rubrique internationale. Il faut être optimiste. Hein. Oui. Rubrique internationale. Alors, on a le choix entre l'Asie, l'Afrique, le Proche-Orient. On attaque par quoi, à ton avis?
Je te laisse le soin de choisir le continent qui est le moins pollué, le moins victime du réchauffement climatique. Enfin, je ne sais pas, on a le choix.
Ça se vaut. Allez, eh bien, bon, je sais pas, bon, pourquoi pas commencer par le Proche-Orient, le Moyen-Orient, avec Israël, la Syrie, l'Irak. Alors la Syrie et l'Irak un peu liés dans l'actualité, puisque les djihadistes d'Al-Qaïda ont mal à partir, à la fois avec le premier ministre irakien et puis qui est chiite contre ces milices sunnites qui ont entrepris de prendre des villes comme Fallujah, comme Ramadi, et actuellement, il y a un appel d'Al-Maliki à les bouter hors de ces villes, ne sans entendre que si la population n'y arrive pas, l'armée interviendra. Donc ces groupes qui ont comme objectif l'État islamique en Irak et Iran, donc, sont aussi en Syrie où ils sont confrontés là aux rebelles de l'ALS, l'ALS dont on a pensé tous ces derniers temps qu'ils étaient un petit peu submergés par les milices islamistes, peut-être aussi grâce à l'armement qui leur a été fourni ces derniers temps, les voilà qui sont en mesure de s'en prendre aux djihadistes sunnites, qu'ils accusent aussi d'être un petit peu les alliés de El-Assad, une espèce de connivence entre les deux pourrait s'entendre, bien qu'ils combattaient aussi l'armée syrienne. Donc, c'est vous dire que la situation dans la région n'est pas du tout stabilisée, bien sûr, ces derniers jours, et que la perspective du Genève 2 ne s'arrange pas, même si on a Kerry qui a fait une tournée dans une dizaine de pays, hier en Jordanie, Arabie Saoudite, mais plutôt pour relancer le processus de paix palestino-israélien, encore que tout se tient dans la région, bien sûr, et qu'il est difficile de traiter un sujet sans s'intéresser aux autres. La Palestine, donc, Kerry cherche à obtenir un accord définitif. Bon, il fait le travail qu'il est payé pour faire. On ne peut pas trop imaginer que ça marche, mais disons qu'il met du cœur à l'ouvrage, demandant aux Israéliens la fin de la colonisation. Les Palestiniens, quant à eux, mettent un préalable avec cette fin de colonisation, la volonté d'un État indépendant. Et Kerry a essayé de négocier autour d'une proposition de retour partiel des Palestiniens qui ont dû s'exiler après 67. Il s'est trouvé opposé à un refus des Israéliens. Bref, le processus de paix n'avance pas beaucoup. Et on peut douter qu'il avance même un tout petit peu avec ce qui est en train de se dérouler actuellement. Voilà, je te donne un peu la parole aussi sur tout ça et le reste.
Oui, si on reprend effectivement l'itinéraire que tu as suivi et qu'on le remonte dans l'autre sens, eh bien, partant de la Palestine, on a vu que avec le coup d'État militaire en Égypte, les choses avaient changé, puisque le courant favorable au mouvement plutôt à obédience, on va dire, chiite et iranienne, bien est battu en brèche, et la bande de Gaza est complètement isolée, alors isolée par tout le monde, isolée par les Égyptiens d'un côté, isolée par les Israéliens de l'autre, et que effectivement on peut penser que justement les Israéliens vont chercher avec les Égyptiens à neutraliser ce territoire qui effectivement depuis des décennies a été un peu au centre de la non-application des résolutions de l'ONU depuis les années 40, 50, 60, 70. Enfin, on ne compte plus le nombre de résolutions de l'ONU qui n'ont pas été suivies d'effet, notamment de la part d'Israël. Alors effectivement, cette situation qu'on croit de plus en plus liée à une confrontation interne à l'islam, c'est-à-dire entre chiites et sunnites, semblerait se confirmer. Encore que on a bien compris que les djihadistes, enfin la branche la plus dure, n'a que peu de rapports avec les frères musulmans, et peu de rapports non plus sauf à être soutenu par eux, mais dans des ambitions effectivement de domination régionale, soutenu par l'Arabie Saoudite et puis dans d'autres cas par, y compris le Qatar qui est ce pays qui va bientôt s'annexer à la France, ou la France qui va être annexée au Qatar, on ne sait pas encore. Mais enfin, la confrontation interreligieuse est forte. Elle s'exprime, comme tu l'as dit, un peu à la frontière entre l'Iran, entre l'Irak et la Syrie. Et on voit que, on va dire, le démantèlement de l'Irak s'accélère. On avait compris qu'il y avait déjà trois Iraks. L'Irak des Kurdes au nord, l'Irak des sunnites au centre, et puis l'Irak des chiites au sud. Bon, ça se confirme tous les jours, cette explosion de l'Irak. Et on comprend que si Bachar al-Assad tombe, eh bien la Syrie va connaître le même sort de désintégration. On rappellera aussi que la Libye est dans ce système de désintégration, mais dans un autre contexte, pas lointain, mais géographiquement un petit peu différent. Et donc, pour les Occidentaux, maintenant, ils sont confrontés à la question de savoir s'il est bien opportun d'accélérer la chute de Bachar, qui va faire plus de dégâts que n'apportera de réponse aux problèmes, notamment aux problèmes de liberté ou de aux problèmes humanitaires. Et c'est effectivement ce qui rend la conférence dans 15 jours très, très, très importante, la conférence qui va se tenir à propos de la Syrie, parce que maintenant, on voit bien que le conflit est régional. Enfin, on le savait, on l'a dit ici à Canu, on a toujours essayé de faire des analyses entre les différentes forces qui s'opposent, entre les grands impérialismes, les moyens impérialismes, les petits impérialismes, et tout ça aujourd'hui effectivement se retrouve en même temps sur une base économique qui est moins importante que la base idéologique et religieuse, mais néanmoins on sait qu'aussi il y a la base économique, par exemple au niveau de la répartition et du contrôle du pétrole. Je terminerai en disant un mot sur ce qu'on a appris, parce que c'est pas les médias occidentaux n'en parlent pas beaucoup. Cette grande manifestation des clandestins à Tel Aviv, en Israël, plusieurs dizaines de milliers de clandestins qui ont manifesté parce que le gouvernement de Netanyahou vient de pondre une loi qui fait pratiquement des clandestins, des hors-la-loi, et qui donc se prépare à des grandes purges et des expulsions, des emprisonnements, en fait, en reprenant pour certains côtés la manière dont on règle le problème des clandestins dans les pays de l'Europe, c'est-à-dire avec les centres de rétention, des choses comme ça. Cette manifestation de plus de 30 000, on dit 30 000 personnes, c'est considérable à Tel Aviv, montre que effectivement de l'intérieur, Israël est miné, et qu'une fois de plus, il lui faut faire procéder à la fuite en avant, c'est-à-dire rappeler que c'est un pays en danger, qu'il est menacé de toutes parts, et que quand il fait des concessions, c'est d'un sordide total, parce que en même temps qu'il libère 100 prisonniers palestiniens, on rappellera qu'il y en a 5000 prisonniers palestiniens en Israël, quand il en libère 100, simultanément, il annonce la construction de plusieurs milliers de logements, c'est-à-dire, c'est donnant-donnant. Et moi, j'ai fait un décompte, j'ai remarqué que pour un Palestinien libéré, c'est 100 logements qui vont être construits dans les territoires occupés. C'est vraiment du sordide au plus haut degré.
Voilà, donc situation dans la région très instable. C'est pas la Turquie qui, pour le moment, elle aussi est confrontée à des troubles avec le Erdogan qui est même maintenant défié par ses militaires, après que ce soit les gens dans la rue, dans cette affaire de corruption monstrueuse qui affecte tout son entourage. Ils essaient aussi de retourner la situation en organisant un procès d'un certain nombre de personnes d'un parti d'extrême gauche, le Parti de la démocratie socialiste, auquel sont promises des dizaines d'années de prison suite aux manifestations récentes. Voilà, pour en finir, on va continuer un petit peu avec la partie arabe et musulmane. On dirait que la Tunisie est en train d'avancer sur son problème de constitution. Donc le Parlement, finalement, serait en train de sortir de l'impasse, bien que la date du 14 janvier, qui était initialement prévue comme date butoir, va être impossible à tenir. Le préambule est voté, le premier chapitre est voté, il reste 150 articles à voter. Une constitution qui, sur le papier comme ça, pour le moment, va un peu moins dans le sens d'une islamisation radicale. Certes, l'islam est la religion d'État, mais la charia ne serait pas la règle de justice qui s'imposerait. Et il y aurait des droits un petit peu réservés aux femmes, moins contraignants que ceux qu'on avait pu envisager il y a peu de temps. Il y aurait aussi un amendement qui interdirait les accusations d'apostasie. Ça, c'est pas mal parce que on a facile tendance à recourir à ce genre d'arguments dans les pays liés un peu radicalement islamistes, comme était parti pour l'être la Tunisie. Voilà, autre sujet ou commentaire, Robin?
Je voulais parler de l'Europe. Oui. L'Europe, hein, comme disait De Gaulle. Mais l'Europe au niveau de sa présidence de l'Union européenne, la Grèce, voilà, la Grèce qui est dans une situation économique épouvantable, avec un taux de chômage énorme, et puis partout des purges sur les services publics, sur l'emploi, sur les fonctionnaires, enfin sur tout ça. Donc c'est la Grèce qui, dans le système tournant de présidence de l'Union européenne, depuis donc 5 jours maintenant, assure cette présidence qu'elle va garder 6 mois, et dans 6 mois, ce sera l'Italie, donc un autre pays qui est pas très bien au top niveau des pays comme l'Allemagne, par exemple, mais qui, effectivement, c'est un petit peu différent. Alors, cette Grèce, eh bien, c'est la Grèce, finalement, qui ne va pas ruer dans les brancards. C'est une droite très, très, très dans le style de toutes les exigences d'austérité proclamées par la fameuse et sinistre Troïka, c'est-à-dire la Commission de Bruxelles avec son sinistre président Barroso, avec la BCE, la Banque Centrale Européenne, et le Fonds Monétaire International, qui continue à dicter la loi économique en Europe, ouvrant de temps en temps une vanne, en laissant entendre qu'il faut faire de la croissance, et puis, par un système quasi automatique, il referme très rapidement la vanne et l'austérité se poursuit. Et c'est cette Europe que les Grecs, alors la droite grecque, dans une coalition avec les socialistes, va gérer jusque pour 6 mois. Mais il faut se rappeler que au cours de ces 6 mois, il va y avoir l'élection au mois de mai, l'élection du nouveau Parlement européen, avec là pas beaucoup de surprises. Les sondages donnent la droite gagnante devant les socialistes, et puis la gauche unie qui propose une autre alternative, eh bien, arrivera assez loin derrière, avec sa figure prestigieuse comme candidat pour occuper la place de Barroso, mais naturellement, ça ne se fera pas, compte tenu des rapports de force. C'est Alexis Tsipras, le responsable de Syriza, le parti gauche de gauche qui en Grèce avait tenté effectivement de faire que l'alternative soit une autre solution que l'austérité. Bon, la gauche de gauche a échoué en Grèce. Tsipras est le candidat donc de la gauche pour l'Europe. Bon, ce sera une figure emblématique, forte, mais qui, hélas, ne pourra pas faire grand-chose. On dira peut-être toujours à propos de l'Europe que va aussi peut-être grâce à ce petit moment électoral dont il ne faut pas donner beaucoup trop d'importance, l'occasion de se pencher sur ce qui se négocie dans la coulisse, c'est le traité transatlantique, c'est-à-dire le traité qui créerait une zone totale de libre-échange entre l'Union européenne et les USA. Et là aussi, dans le rapport de force économique et financier, c'est tout bénéfice pour les USA. Et cette négociation qui a lieu dans la coulisse, eh bien, ce sera peut-être l'occasion, il faut d'ailleurs, dans les prochains mois, qu'elle soit au grand jour, qu'elle soit débattue et puis surtout mise en cause, et que cet accord soit retoqué, ce qui va être sans doute très difficile, mais c'est un des enjeux des quelques mois qui viennent. Donc on voit un printemps très 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 difficile.
Alors, quelques mots de l'Afrique aussi, parce qu'il y a pas mal d'actualités là-bas. Bon, on sait qu'au Niger, donc, Areva continue ses négociations avec le gouvernement. Il faut savoir qu'un tiers de l'uranium français provient du Niger, donc c'est un enjeu à la fois pour Areva, mais aussi finalement pour le lobby militaire français, puisque qui dit uranium dit bombe atomique, dit missile et dit approvisionnement en matières premières. Donc il n'y a pas que Areva qui est intéressé à des bonnes négociations avec le Niger. Ce qui est assez surprenant, enfin pas surprenant, mais ce qui est choquant, c'est que dans ce même temps, au Niger, il n'y a pas un dixième de la population qui a accès à l'électricité. Et nous, on ne sait pas quoi faire de notre énergie nucléaire qu'on revend. Bon, la RCA aussi, donc un mois de troubles et ça continue. 1600 militaires français, ça n'empêche pas les Séléka et les milices chrétiennes, on va dire, de s'affronter. 1000 morts en un mois, 1600 militaires pour un pays plus grand que la France, il en faudrait des milliers, et pas forcément des Français. C'est d'ailleurs ce qui pose aussi problème au gouvernement français, c'est d'être le seul pays à vouloir s'investir et à vouloir envoyer du monde. On compte aussi sur les Africains qui n'ont pas les mêmes moyens techniques en matière militaire. La catastrophe pour la population est énorme, puisqu'il y a 900 000 déplacés déjà dans le pays, et les 1600 militaires français font ce qu'ils peuvent, mais visiblement ça ne suffit pas à enrayer les affrontements. Et puis en Soudan du Sud aussi, où 3 ans après l'accession de ce pays à une indépendance, enfin une scission avec le Soudan du Nord, les enjeux pétroliers attisent les convoitises entre le président au pouvoir, Salva Kiir, et puis son opposant. Et ces convoitises se traduisent en combats militaires aussi aux dépens des populations. Et on essaie de négocier un peu plus au sud, en Éthiopie, un accord entre les deux. Il s'agit bien entendu de se répartir les richesses et d'arriver à un accord là-dessus, ce qui n'est pas évident. Et pour le moment, il n'y a pas de négociations qui ont abouti à un cessez-le-feu. Voilà, Robert, tu...
Non, je crois que...
Alors, un mot de l'Asie, alors peut-être, ou la Thaïlande, oui. Où ça continue, les manifestations dans les rues, avec un objectif au 13 janvier de bloquer la capitale et les institutions. Donc des élections dans un mois. L'opposition aurait voulu qu'un conseil du peuple, que le gouvernement démissionne, qu'un conseil du peuple soit là pour organiser ces élections. La première ministre s'accroche au pouvoir. Donc le coup de force va-t-il réussir? C'est à suivre. Et puis on peut pas ne pas dire quelques mots du Cambodge aussi, où là les manifestations sont certes politiques, mais surtout sociales. C'est les travailleurs du textile qui sont en grève pour obtenir un salaire minimum. Et on ne fait pas dans le détail, au Cambodge, on tire sur les travailleurs. Il y a au moins 4 morts et peut-être plus, quoi. Les opposants politiques réclament une élection. Et face à un gouvernement passablement corrompu, que même les bouddhistes dénoncent, quoi. Donc un pays jeune, surexploité dans ce travail des usines textiles et qui remue pour que les choses changent. Autre sujet, Robert, ou commentaire?
Oui, on était dans les élections truquées, tronquées ou ratées. On peut ajouter à la liste le Bangladesh, où visiblement ça se passe très mal. La journée électorale a été marquée par des affrontements, des morts, et puis des bureaux de vote détruits, parce que effectivement l'opposition... à ceux qui tiennent le pouvoir actuellement, eh bien, avait appelé au boycott, et puis tout ça sur un rappel tragique, c'est les milliers de morts du textile. On parlait des textiles au Cambodge, milliers de morts dans différentes usines qui ont brûlé ou se sont effondrées au Bangladesh, et ça, les gens de ce pays n'ont pas oublié.
Voilà, je te propose qu'on fasse une pause musicale.
Oui.
Eh bien, on va la faire avec Bernard Lavilliers, qui chante Nazim Hikmet, Scorpion, dans une musique à lui.
Le scorpion, dans une nuit d'épouvante, comme le moineau, mon frère, tu es comme le moineau. Dans tes menues inquiétudes, comme la moule, mon frère, tu es comme la moule, enfermé et tranquille. Tu es terrible, mon frère, comme la bouche d'un volcan éteint, et tu n'es pas un, hélas, tu n'es pas cinq.
Tu es terrible, mon frère, comme la bouche d'un...
ta faute, mon frère, que c'est ta faute, non. Mais tu y es pour beaucoup, mon frère. Et s'il y a tant de misère sur terre, c'est grâce à toi, mon frère. Si nous sommes affamés, épuisés, si nous sommes écorchés jusqu'au sang. Mais terrible, mon frère, comme la bouche d'un volcan éteint. Et tu n'es pas un, hélas, tu n'es pas cinq. Tu es des millions, mon frère, mon frère, mon frère.
La version de Scorpion de Nazim Hikmet par Bernard Lavillier. Vous écoutez bien Radio Canus en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios. Ce Canu Info du lundi 6 janvier 2014, le premier de l'année pour ce qui est des Canu Info du lundi. Et avec Robert en duplex, Jean-Pierre dans les studios. Donc on a suivi avec attention et intérêt les vœux de Pépère, le Potagataz, qui donc nous a un petit peu déçus, mais peut-être toi, Robert, tu es moins déçu que moi.
Mais c'est-à-dire que on peut considérer que il n'y a pas de virage. C'est de tout le débat actuellement que tente d'alimenter les fameux experts en économie, de toute façon qui pensent à peu près tous la même chose. Je trouve que Hollande n'est pas assez volontariste à l'intérieur du monde capitaliste, c'est-à-dire qu'il joue pas franchement le jeu. Et là, bon, ils disent que ses vœux, et notamment cet appel à ce que le patronat discute fermement de projets d'avenir, laisse entendre que il a ce que tu as dit. Il a fait l'option totale de s'en remettre aux entreprises pour faire que les choses aillent moins mal qu'elles ne vont actuellement. Et tout le monde et ces fameux experts disent voilà, il a raté son truc. Il pensait obtenir une amélioration réelle du chômage. Il a simplement obtenu, et encore, il n'est pas vraiment confirmé, une décélération de la hausse du chômage, mais il n'a pas obtenu un passage du négatif au positif comme il en avait fait son credo depuis son arrivée à l'Élysée. D'où tournant qui rappelle, enfin que les experts se plaisent à rappeler en comparaison du tournant pris par Fabius après l'épisode Mauroy au début des premières années donc du mandat de François Mitterrand. Et donc ce réalignement sur le marché, sur la dominante de ce qui était aujourd'hui les puissances qui conduisent le monde. Et justement, c'était intéressant dans le numéro de janvier du monde diplomatique, que tout le monde devrait lire. Il y a l'édito, enfin, c'est plus qu'un édito, c'est un article, ça fait une page plus une entrée de Serge Halimi, toujours remarquable et toujours précis, et qui fait un point d'histoire. Et donc il rappelle ceci, hein, c'est une petite citation. En 2006, dans un ouvrage opportunément intitulé « Devoir de vérité », M. Hollande avait déjà admis la convergence entre socialistes et droite libérale en matière de politique économique, financière, monétaire, commerciale, industrielle et européenne. C'est, écrivait-il, alors ça, donc, citation de François Hollande, François Mitterrand avec Pierre Bérégovoy qui a déréglementé l'économie française et l'a largement ouverte à toutes les formes de concurrence. C'est Jacques Delors qui a été, à Paris comme à Bruxelles, l'un des bâtisseurs de l'Europe monétaire avec les évolutions politiques qu'elle impliquait sur le plan des politiques macroéconomiques. C'est Lionel Jospin qui a engagé les regroupements industriels les plus innovants, quitte à ouvrir le capital d'entreprises publiques. Ce qui lui fut reproché. Alors, conclusion, c'est toujours Hollande qui parle. Cette partie de ce discours de Hollande, c'était cessons donc de revêtir les oripeaux idéologiques qui ne trompent personne. Hein, c'était une phrase terrible. Cessons donc de revêtir les oripeaux idéologiques qui ne trompent personne. Et c'est dommage qu'on n'ait pas suffisamment utilisé ce genre de texte au moment de la campagne de l'élection. Donc c'est un livre de François Hollande, Devoir de vérité. Ça a été publié en 2006 chez Stock. Voilà, eh bien, ma foi, comment on dirait en d'autres lieux, la messe était dite. Donc Hollande peut aujourd'hui dire, ben vous voyez, finalement, j'ai pas changé, j'ai toujours pensé ça au fond de moi-même. Alors de temps en temps, j'ai un peu adapté, parce que quand on fait une campagne, c'est moi qui le dis, il faut être un peu démagogique, il faut, surtout en France, il faut être plus à gauche qu'on ne l'est réellement, si on veut gagner. Bon, et voilà.
L'ennemi de la finance qui devient l'ami de la finance, par exemple.
Oui, oui.
Le problème avec les socialistes, c'est qu'ils se croient obligés de faire des courbettes et de dérouler des tapis rouges au patronat, qui de toute manière n'aura de cesse que de les chasser du pouvoir dès qu'ils pourront le faire, quoi. On se demande pourquoi ils se donnent autant de mal à plaire à des gens qui mettent en souffrance le reste de la population pour leurs gros profits, parce que, qu'on le sache, les entreprises françaises font des profits, il n'y a pas qu'il y a Total, il y a beaucoup d'autres, et elles ne sont pas en manque de rien du tout, quoi. Mais bien sûr, il s'agit de mettre la pression sur les plus pauvres et les travailleurs. Bon, on va peut-être parler social un peu, parce que le temps avance. On a
Peut-être justement, dans cette conjoncture de cette déclaration, on avait la preuve avec la hausse de la TVA au 1er janvier, qu'effectivement, la politique austéritaire continuait, alors avec de légers adoucissements, comme on le dit, mais en fait, le gros de ce qui se passe dans ce domaine-là, c'est une aggravation de la situation et souvent des gens les plus mal lotis au plan des revenus.
Ben oui, quand on augmente la TVA, même petitement pour le Scadetto à 19,6 qui passe à 20, c'est forcément tous les gens qui achètent quoi que ce soit qui sont pénalisés, quoi. Il n'y a pas de diminution. Quand on passe de 7 à 10% sur les travaux et tous les travaux des artisans, on va dire, c'est aussi pénaliser les clients qui est la population. Alors tout ça pour financer quoi ? Ben pour financer 10 milliards de plus de cadeaux au patronat, quoi. Comme s'ils en avaient besoin. Mais bon.
Voilà. Alors il y a c'est marginal. Il y a deux petites baisses de TVA, mais ouais. Quand on voit ce que ça représente, c'est vraiment sans intérêt. Ça ne fait même qu'aggraver l'hypocrisie de la démarche.
Oui, et puis il y a des mesures fiscales qui continuent, comme celle qui consiste à financer la loi du flot, les logements des riches. Hein. Vous verrez partout sur Internet des pubs où si vous payez 2000 euros d'impôts, et ben pendant 9 ans, vous pouvez ne plus en payer grâce à la loi du flot. Quoi. Bon, on va pas répéter une fois de plus cette sempiternelle ritournelle. Alors, qui est en conflit social pour le moment et qui est en souffrance encore du côté des travailleurs? Ben, il y a cette entreprise Maurice Ducrot de camionnage, 5000 personnes, 4 candidats à la reprise, fin janvier une décision, peut-être un repreneur qui repartirait avec 1800 personnes. C'est aussi beaucoup de chômage en perspective dans tous les cas de figure, quoi. Et puis il y a la SNCM qui entame un bras de fer, SNCM dont l'État est actionnaire à 25%, avec la ligne Corsica, SNCM qui bloque. Mais enfin, j'ai appris que tout à l'heure, ce soir, les 1000 tonnes de Clémentine Corse vont être débloquées. La grève est un peu suspendue. C'était un gros problème puisque 1000 tonnes de clémentine allaient pourrir si on ne leur permettait pas de franchir la Méditerranée, quoi. Donc un conflit qui, à défaut de se débloquer, ça ménage, quoi.
Sur le dossier SNCM, il y a deux aspects. Il y a l'aspect effectivement du maintien plein et entier de la compagnie, mais il y a aussi la concurrence avec la compagnie italienne qui effectivement fait une concurrence déloyale, et on retrouve d'ailleurs tout le problème d'ailleurs qu'à Bruxelles on a essayé de faire avancer sur ce qu'on appelait les travailleurs détachés. C'est pas exactement la même chose, mais en fait ça rejoint, parce que finalement la compagnie italienne n'est pas assujettie aux normes de travail et aux normes surtout salariales et taxes que la compagnie française. Et donc une plainte a été déposée déjà il y a quelques mois, et cette plainte contre la compagnie italienne peut aboutir. Mais le gouvernement a proposé 30 millions pour faire taire peut-être les travailleurs de la SNCM, mais évidemment pour eux ça n'est pas, en plus ces 30 millions c'est Montebourg qui les a annoncés, mais comme ça il est sorti un peu effet d'annonce comme il en fait. Et d'ailleurs ce même Montebourg qui a pratiquement insulté les gens de la Foundry, c'est cette boîte qui a été pillée par les multiples repreneurs, d'abord américains puis ensuite allemands, qui ont piqué dans la caisse pour alimenter d'autres usines ailleurs qu'en France. Foundry, c'est à Rousset, c'est pas très loin de Marseille. Et donc, c'est 600 emplois qui sont menacés par cette entreprise, ou qui est pratiquement en situation de cessation de paiement. Et alors, les travailleurs, quand Montebourg est venu les voir, les travailleurs lui ont dit, mais nous, on est des industriels. Le travail qu'ils font, c'est un travail de haute technologie. Et ils ont dit, on peut reprendre ça, on peut le faire, nous. C'est-à-dire, ils disaient simplement à Montebourg, aidez-nous et on fait une coopérative avec ça. Et Montebourg a eu le culot de les insulter en disant « Mais comment? Mais vous n'êtes pas des capitalistes, vous n'allez pas vous lancer là-dedans. » On se rend compte où en est aujourd'hui le comportement des gens comme Montebourg, qui effectivement, dont on pensait qu'il était un défenseur des alternatives coopérativistes, mais pas du tout. Maintenant, qui sait que c'est interdit de faire des coopératives avec les entreprises en difficulté, que Hérault ne veut pas et puis que Hollande s'en fout, eh bien, Montebourg, il dit non, on ne fait pas de coopérative, d'accord, moi, il faut que je pense à mon avenir, c'est plus important. Et donc, il retourne l'argument, et au lieu de défendre les travailleurs qui veulent se mettre en coopérative, il les insulte en les traitant d'affreux capitalistes.
Ouais, pour clore sur le dossier Corsica Ferry SNCM, là, une des revendications des gens de la SNCM, c'est de demander une obligation pour tous les gens qui fonctionnent en France dans ce type de transport d'être sous pavillon français, hein, pour limiter les passe-droits fiscaux qui sont opérés dans les autres cas de figure, quoi. Voilà, quoi d'autre encore en social?
Il y a une société à Lyon, la SITL. Mmh. En fait, elle fabrique des réfrigérateurs. Hein. C'est l'entreprise, c'est lié au holding Brand Fagor. Mmh. Et là, c'est 400 salariés qui sont en situation d'être peut-être des chômeurs très rapidement. Enfin bon, pour l'instant, il y a 6 mois de répit. Le temps de trouver un repreneur, c'est la SITL. Donc, c'est une entreprise de Lyon. J'ai pas l'adresse, mais bon, ça va faire la une du Progrès dès demain matin si ça ne l'a pas fait ce matin. C'est une plaisanterie. Oui.
Puis il y a une petite grève à Roissy, comme la Lufthansa fait tout pour qu'on ne sache pas que cette grève a lieu. Il est important d'en parler, puisqu'ils veulent alléger le personnel en France, Lufthansa, mais la compagnie aérienne allemande. Donc le personnel est largement en grève. Voilà, qu'est-ce qu'on avait d'autre à évoquer ce soir? Alors, le gouvernement qui s'affole à l'approche des municipales et qui donne des directives de gouverner par ordonnance et décret, autrement dit de passer par-dessus le Parlement. Le changement, c'est donc maintenant, ceci jusqu'au mois de mars. Alors on va voir ce qu'ils vont nous sortir, les réactions que ça va engendrer, mais c'est vrai que ça grogne déjà dans les rangs des parlementaires, bien entendu.
Il y avait un dossier dans l'Humanité sur le transport gratuit, et notamment avec plusieurs pages sur la situation qui est assez remarquable à Aubagne, depuis plusieurs années, où le transport est gratuit, et on s'aperçoit que finalement le transport gratuit coûte moins cher à une collectivité publique que le transport payant à travers tous les méandres, y compris toutes les bavures ou les choses qui peuvent se passer. En France, il y a 23 villes, hein, c'est pas des très grandes villes la plupart du temps, qui ont instauré le transport gratuit, parmi lesquelles, je ne les ai pas toutes. Hein,
gratuit pour tout le monde ou gratuit pour certaines catégories de la population?
Pour tout le monde, hein, c'est, tu montes, tu t'as pas à faire usage d'une identité ou d'une carte de quoi que ce soit. C'est gratuit, tu montes, tu descends quand tu veux. Compiègne, Casse, Figeac, Châteauroux, Issoudun, il y en a 23, et c'est un dossier qu'on trouve dans l'Humanité du 30 décembre.
Ouais, que l'on lui lutte contre le chômage en embauchant des contrôleurs.
Oui, bien sûr, il va s'apercevoir très vite que ces contrôleurs lui coûteront plus cher que s'il faisait la gratuité à Lyon. Tout le monde, quand on veut avoir une information, une contre-information alternative, c'est-à-dire des vrais dossiers montés, alors vraiment, c'est pas de la propagande, c'est des dossiers sérieux que fait Mediapart sous la houlette. De Plenel, et ben oui. Il n'est pas tout seul, il y a une bonne équipe. Mmh. Mais voilà que Mediapart, qui effectivement refusait de payer la TVA à 6% que doivent payer les journaux électroniques, qui sont différenciés des journaux papier, qui eux payent 2,1 de TVA. Et donc, depuis des années, Mediapart payait 2,1. Et voilà qu'aujourd'hui, l'État, Bercy, le ministre, tout ça, lui réclame un arriéré de plusieurs millions d'euros. Ce qui fait que si la demande de l'État aboutissait, Mediapart, comme disent ses responsables, il n'y aurait plus qu'à mettre la clé sur la porte et puis s'en aller faire autre chose.
faut dire un mot du procureur de Lyon aussi, qui fait du zèle, là, le 31 décembre, il a bien voulu finir l'année, lui, contre les 5 militants CGT refusent des prélèvements OGM à Roanne. Hein. Et donc, il relance la procédure. On pouvait espérer, après les précédentes décisions de justice et puis la mobilisation qui s'est faite autour, que c'en était fini avec cette histoire. Eh bien non, il veut à nouveau les faire condamner pour ce refus de prélèvement OGM. Et,
ça, c'est pas OGM, hein, je crois.
OGM, merde. oui, là, je mélange tout. Non, c'est pas OGM, c'est quoi? Dis-moi-le.
tout en même temps que tu me le dis, là, pourtant, on en parle énormément de...
Enfin, génétique, hein, les analyses génétiques.
C'est-à-dire le prélèvement génétique, oui. L'identification.
Voilà, auquel n'importe qui, d'ailleurs, pris lors d'une manifestation ou autre, peut être soumis à la pression d'accepter ces prélèvements qui, après, le mettent dans le fichier du grand banditisme, des pervers,
oui, voilà,
tout azimut et autres.
Amalgamés à tous les délits possibles, imaginables. Imaginable. Oui.
Voilà, ben écoute, on
dira peut-être pas, parce que les gens qui vont faire l'émission suivante, Cannabis Circus, en parleront sans doute largement, mais il y a une espèce de vent de liberté qui souffle sur le cannabis. Alors ça, c'est surtout du côté des États-Unis. En Uruguay, ça c'est déjà pratiquement acquis, mais voilà que certains États américains légalisent ou dépénalisent ou acceptent le cannabis à usage thérapeutique. Bon, donc tout ça, vous en saurez plus en écoutant nos camarades
à 21h.
Hein,
pour l'heure, ne quittez pas l'antenne. Ce Canu Info se termine. Il sera rediffusé demain matin à 8h. Vous devriez pouvoir également le retrouver sur Internet un peu plus tard dans la soirée et tous les jours qui suivent. Et nous donnons rendez-vous à nos auditeurs pour ce qui est de l'équipe du lundi. À la semaine prochaine. Bonsoir.